Avant de parler un peu de l'actualité du groupe Disconnected, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours artistique?
Ouais. Donc, alors moi du coup c'est Flo Disconnected. J'ai commencé la guitare assez jeune, mais c'est à l'adolescence là, quand il y a des copains qui commencent à jouer, que tu te passionnes au métal, etc. J'ai eu mes premiers groupes à cette période-là, tu vois, fin collège, début lycée. Puis j'ai commencé à avoir ma première vraie expérience de groupe avec il y a quelques années avec un groupe qui s'appelle Silver Train, où j'ai pu avoir ma première expérience dans mon studio. J'ai enregistré un album que j'avais composé et après on a fait une petite tournée pour défendre ces titres-là. Et à la fin de Silver Train, j'ai rencontré les gars de Disconnected à peu près au même moment, donc le parcours perso se mélange au parcours de Disconnected. Quoi.
D'accord. Et donc, t'as intégré le groupe vers quelle année, tu me disais?
J'ai intégré le groupe il y a 3 ans et demi, en 2018 à peu près. Enfin, en 2018 précisément. Il y a 3 ans et demi à peu près. Et en fait, j'ai rencontré les gars du groupe 4 jours avant le premier concert qu'on faisait à la sortie du premier album.
D'accord. Donc, c'était effectivement juste au moment où ils venaient de finaliser White Colossus.
C'est ça. En fait, c'était le premier concert, c'était pour la release de l'album, donc il était même pas encore sorti. Ils avaient juste sorti un premier clip d'un single, et du coup, voilà, moi je suis monté, je les ai rencontrés parce qu'on faisait une résidence les 3-4 jours qui précédaient le concert, mm-hmm. Et moi je les ai rencontrés à ce moment-là. D'accord. Ça a bien matché.
Le déclic du début du choix de la guitare, c'était pas familial ou un musicien en particulier qui t'a donné envie?
Alors, vu que j'ai commencé jeune, non, c'était pas un musicien qui m'a donné envie, j'avais envie de faire un instrument, je me suis mis à la guitare un peu, tu vois, pour tester, ça me tentait bien. Et après, j'ai eu le déclic de vraiment m'y intéresser quand j'ai commencé à écouter du métal, tout simplement. Là, c'était pas un mec en particulier, mais c'était vraiment le fait de vouloir faire du métal en groupe et de faire comme les groupes que j'aimais.
Ok, et maintenant, là, maintenant que t'es un musicien, je dirais, mature et expérimenté. Tu gardes des musiciens qui sont des modèles?
Ouais, carrément, ouais. J'ai bien sûr des guitaristes qui me plaisent particulièrement. Alors, pendant très longtemps, j'ai été ultra fan de Mathias Eklund, de Freak Kitchen, que j'ai un peu lâché ces derniers temps, même si j'aime encore ce qu'il fait, mais si je devais citer quelques guitaristes que vraiment j'aime beaucoup, il y a Marty Friedman, à fond. Et je suis aussi bien fan de Rontal, Bumblefoot ou Steve Vai, pour en citer que quelques-uns. C'est vraiment des gens qui m'influencent beaucoup. Et après, si tu vas plus large, pas forcément guitaristique, Corey Taylor de Slipknot, ça fait partie des artistes que j'adore. Et rien à voir, je suis très très fan de Tigran Amassian, qui est un pianiste jazz, qui mélange plein de styles, et moi ça me fait penser à du gros métal en mode jazz. Et je suis très très fan, très influencé par ce mec.
D'accord. Autre élément, tu joues sur quoi comme guitare?
Je suis sur Schecter.
D'accord.
Je suis endorsé par Schecter et du coup j'en ai plusieurs. Et sur scène, j'utilise principalement la Schecter C1 CLS Elite. Si tu veux les détails.
D'accord. La tendance qu'il y a parfois enfin, pour certains groupes ou certains mouvements de rajouter des cordes, de complexifier un peu le... C'est quelque chose qui t'intéresse ou c'est un truc qui te laisse un peu de marbre?
Non, disons que ça ne gêne pas qu'on le fasse, mais non, moi 6 cordes ça me va très bien pour plusieurs raisons, parce que déjà si tu veux plus grave, tu peux te désaccorder tes cordes et les mettre plus graves avec une 6 cordes. Et la deuxième raison qui est plus physique, c'est que j'ai la tendinite qui a été dû au fait que j'ai tenté la 7 cordes. Donc forcément, ça aide pas à m'y remettre. Mais voilà, concrètement, je pense qu'avec une 6 cordes, tu peux faire beaucoup de choses. Après, là, peut-être la différence qu'il y aura, c'est qu'il faudra plusieurs grattes pour être plus polyvalent.
D'accord. Donc justement, en mars 2018, donc à la sortie de White Colossus, on avait déjà discuté avec un de tes camarades.
Okay.
Donc toi, t'es juste arrivé à ce moment-là ou à quelques semaines près.
C'est ça.
Avec le recul justement de toute la période de concert suite à la sortie de White Colossus, en particulier la tournée avec Tremonti et puis même les premières parties de Judas, qu'est-ce que tu retiens un peu de toute cette période?
Qu'est-ce que je retiens? Alors, bon, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est du plaisir, hein, forcément. Mais je retiens toute l'expérience aussi que par les conversations qu'on a pu avoir avec des artistes qui ont réussi, qui sont allés loin et qu'on aime particulièrement. plaisir de l'expérience. Et puis ça, s'il y a un autre truc aussi, particulièrement à la tournée, ça nous a permis juste à nous, au sein du groupe, de nous connaître réellement. Parce que comme on habite tous loin, qu'on se connaissait pas depuis longtemps, ça nous a vraiment mis dans une ambiance particulière et on s'est vu pendant un moment d'affilée. Et là, on s'est vraiment découvert entre nous, quoi. Ce qui a permis au final d'accéder au deuxième album de manière plus soudée.
Ok. Et justement, sur les tournées que vous avez fait avec des artistes parfois comment dire, prestigieux, au contact de ce type de musiciens, on apprend, ne serait-ce qu'à les observer, les voir comment ils travaillent.
Bien sûr, bien sûr. Après, nous, je t'avoue qu'on a eu la chance d'avoir des mecs vachement ouverts d'esprit et vachement accessibles. Pas accessibles. Si c'est accessible quand tu vois ça avec eux, en tout cas. Ils étaient super cool, donc forcément ça aide parce qu'on peut poser des questions, on peut se permettre d'aller voir un peu ce qu'ils faisaient. Je prends l'exemple de Trémonti qui, avec Adrien, il nous a proposé de venir jouer de la guitare avec lui dans les loges. Et le plan, c'était pas qu'il nous parle de guitare et tout, c'est carrément, il avait envie qu'on lui montre des plans qu'on aime et qu'on lui apprenne à les jouer. Et lui, il nous a appris des plans qu'il aimait, et il nous a expliqué un peu ce qu'il faisait. Donc tu vois, rien que ça, c'était vraiment de l'apprentissage très précis en soi, de choses que ces mecs-là nous ont transmis directement.
D'accord, d'accord. En 2021, donc on est encore en plein, on est en plein dans cette crise sanitaire. Et vous décidez donc de vous rappeler aux bons souvenirs de votre public en sortant un EP particulier qui s'appelle The Downtime.
C'est ça.
Où vous reprenez des titres que vous réassemblez, vous modifiez, vous les réinterprétez. La démarche était vraiment de pas faire du sur place et d'avancer malgré tout, malgré les difficultés.
C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre deuxième album était censé sortir beaucoup plus tôt. Mmh. Sans vouloir dire de bêtises, je crois que dans l'idée, il aurait pu être prêt pour fin 2020. Et en fait, avec la crise et tout, on s'est dit que pour un groupe comme nous, c'était pas du tout rentable de le sortir maintenant et on avait vraiment envie de le sortir et de pouvoir le défendre sur scène. Du coup, on a réfléchi et on a eu l'idée de proposer un petit EP, histoire d'avoir quand même du contenu, que nous, ça nous fasse faire des choses. Et du coup, ça nous a permis aussi d'explorer, tu vois, de faire des tests, que ce soit pour nous ou par rapport à notre public. Et du coup, c'est là qu'est né The Downtime.
Donc par définition, t'avais pas pu mettre ta patte sur White Colossus. Est-ce que là, t'as été un peu plus intégré dans le, tu vois, ta créativité a pu être mise à l'honneur?
Alors oui, ça reste que dans notre processus, c'est vraiment Adrien qui compose la base des morceaux. Mais après, la différence qu'il y avait, c'est que d'un, déjà, il nous connaît, on a tous nos influences qu'on partage. Et une fois que les compos de base sont faites, après, tout le monde pose sa patte dessus et donne son avis et rajoute ses petits trucs à lui. Donc oui, carrément, par rapport à White Colossus, que j'ai découvert une fois terminé, forcément là, on a un truc vraiment qu'on a fait tous ensemble, avec une base bien évidemment d'Adrien et les paroles d'Ivan, mais qu'on a pu tous peaufiner ensemble.
D'accord. Justement, au sein du groupe, bon déjà, vous avez de mémoire changé de batteur par rapport à l'époque précédent album. Comment c'est fait? Et en plus, votre batteur, c'est votre producteur, il a enregistré le disque.
Le dernier album,
il était là, il était disponible, il était bon, il a intégré le groupe ou ça s'est passé comment?
Alors, à la base, on avait donc Aurel, et il y a des dates où on a dû trouver un remplaçant, et pour le coup, c'était Morgan Berthet qui était venu remplacer Aurel. Et quand on a dû réellement changer de batteur, je crois bien que, enfin je suis un peu pressionné, c'est Morgan Berthet qui nous avait conseillé Jelly. Il nous avait conseillé Jelly et un autre mec, mais on a appelé Jelly, on l'a rencontré, ça a bien matché entre nous, et bon quand il a joué avec nous, on a compris aussi qu'en termes de level ça matchait parfaitement, et ça s'est fait comme ça quoi. C'est vraiment Morgan Berthet qui nous a conseillé Jelly et ça l'a fait direct.
Mais par contre, c'était aussi une évidence pour vous de bosser avec lui sur l'enregistrement du disque et la production.
Ça s'est fait plus tard, parce qu'à la base, c'était pas lui qui était censé faire le mix et le mastering. D'accord. Au final, après, tu sais, ça a pris du temps et tout, donc les plans ont un peu changé. Et Jelly s'est proposé, et en fait, avec ce qu'il nous a sorti, ça nous a carrément convaincu, et on a bossé comme ça.
Ok. Vous êtes donc deux guitaristes dans le groupe. Toi, tu es entre guillemets le plus nouveau, en tout cas le plus un, un musicien plus récent dans le groupe. Comment se fait la ouais. dynamique entre vous deux, à la fois lors de la composition, sur qui prend quoi ou qui assure quelle partie, et même après sur scène, est-ce que c'est assez naturel ou voilà, comment vous travaillez tous les deux?
C'est assez naturel parce que c'est comment dire, c'est posé, c'est comme ça. Vu qu'Adrien il a monté le projet et qu'il compose, si tu veux, moi je suis vraiment venu là en tant que guitariste rythmique et on s'entend très bien, on peut communiquer sans problème. Là tu vois par exemple, on est en train de se voir justement dans cette période là pour savoir qui prend quelle partie sur les morceaux et tout. Donc on travaille ça ensemble, on en discute, on voit qu'est-ce qui est le plus intéressant, s'il y a des choses que quelqu'un gère mieux que l'autre, ou si c'est juste une question de choix, on prend telle ou telle partie. Voilà.
Et toi, tu te sens aussi à l'aise, tu prends le même plaisir à la fois en rythmique ou en si tu prends un solo en charge ou...
Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu dis.
Tu prends le même plaisir dans les deux rôles, entre guillemets, soit en rythmique, soit plus en lead.
Ah ouais, carrément, en fait le truc c'est que c'est deux plaisirs complètement différents, le fait d'être en rythmique. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de groupes où j'étais soliste, mais la rythmique me permet d'être vraiment focus sur l'énergie que je vais ressortir, et pas de, tu sais, genre de devoir changer de son, de milieu, d'être concentré sur ce que je fais. Enfin, je suis pas concentré sur ce que je fais, mais je veux dire, j'ai beaucoup plus de recul en tant que guitariste rythmique pour juste apprécier ce qui se passe et donner toute mon énergie. Et c'est vraiment quelque chose que je kiffe. En fait, ce que je kiffe avant tout, c'est déjà faire des concerts. Après, voilà.
sur les concerts qui va venir, donc je suppose que vous commencez à travailler quand tu disais répéter.
Ouais.
Comment tu trouves le bon équilibre justement entre un, le nombre d'instruments que potentiellement tu veux, le nombre de guitares que tu dois pouvoir utiliser sur scène, et même potentiellement la pédale d'effet devant toi pour que tu n'aies pas un espèce d'énorme bloc devant toi avec des centaines d'effets à devoir lancer au bon moment, au bon endroit. Comment vous gérez un peu cet aspect-là?
Tu parles personnellement sur le nombre de guitares qu'on a par musicien, tu veux dire. Ok, alors là...
Tu me dis que tu kiffes de changer à chaque morceau de guitare, hein. Il y en a comme ça, mais...
Ouais, non, bah, en fait, on va être obligé d'avoir plusieurs guitares pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis qu'on a commencé, on avait qu'un seul accordage, donc on avait deux guitares, celle avec l'amplinaire en concert et un spare derrière, c'est-à-dire une guitare qui nous permet, s'il y a un souci, de pouvoir switcher de guitare et d'avoir une solution de secours. Mais actuellement, là, sur le nouvel album, on a quand même trois accordages différents. Du coup, on risque de finir avec au minimum deux, voire trois guitares. Après, en ce qui concerne les amplis et les effets, on a l'avantage qui, bon, pour certains, est un inconvénient, mais pour l'instant, ça nous a toujours servi, c'est d'être en full numérique. C'est-à-dire que moi, en fait, au final, je sais pas si tu connais, mais moi, j'ai un fractal audio FM3. Donc, c'est un PDP que je peux mettre dans mon sac à dos. Et c'est branché direct sur la sono. J'ai les amplis, mes simulations de haut-parleurs, j'ai mes effets. Et en fait, j'utilise absolument que ça. Après, t'as Romain qui est sur le camper et Adrien qui est sur un Axel X aussi. Donc du coup, en termes de place, de poids, etc., c'est super pratique. Et c'est surtout qu'en fait, on a un son, on n'a pas de surprise. À chaque concert, quand on a le temps de faire des grandes balances ou des petites balances, on a zéro surprise sur le son. Notre ingé son, il sait exactement comment ça va sortir dans sa console. Et une fois qu'on a peaufiné les sons en résidence, ça bouge plus.
D'accord, justement ce mouvement de multiplier les accordages, donc on passait de varier les plaisirs, c'était important pour vous également pour faire évoluer votre son ou affiner un peu le son de Disconnected?
Alors oui, histoire de prendre quelque chose de varié, puis il y a aussi le fait qu'on se rend compte que certains morceaux sonnent différemment. Ça peut... Moi, tu vois, j'étais vachement de la team à me dire si je me réveille le matin, que je fasse une note ou l'autre, la différence au final, je l'entendrai pas trop. Mais en fait, on ressentit d'un morceau, on s'est rendu compte qu'il y avait certains morceaux qui sonnaient vachement mieux si c'était un peu plus aigu. Pour les balades, par exemple, de l'album, on est un peu plus aigu. Et ça influe aussi la voix d'Yvan, tu vois. Parce que Yvan, on va pas être sur les mêmes... Enfin, vu que le morceau est sur la même tonalité, Yvan, on va pas le chanter de la même façon. Et quand il pousse une note un peu plus aiguë ou un peu plus grave, t'auras pas le même ressenti. Donc en fait, on a fait ces choix parce qu'on trouvait que c'est comme ça que les morceaux sonnaient mieux. C'était pas, si tu veux, un choix à l'avance de se dire que on allait faire plein d'accordages différents. C'est vraiment en se rendant compte, en testant des choses sur les nouveaux morceaux.
D'accord. En général, donc pour les sessions d'enregistrement de cet album, combien de temps vous avez pris? Et est-ce que vous avez ne serait-ce que modifié votre façon de travailler par rapport à l'EP? Ou même, est-ce que t'as noté des différences ou des surprises par rapport à tes expériences d'enregistrement précédentes?
Par rapport à l'EP, oui, bien sûr, on a fonctionné différent parce que l'EP, c'était déjà des morceaux qu'on connaissait, c'était de l'acoustique, il n'y avait pas tout le groupe. Donc on a enregistré ça justement chez Jelly aussi, mais on a fait ça en deux jours, on a fait les prises, après nous l'a mixé pendant 4 jours et on va dire presque en une semaine c'était terminé. Alors que que l'album, ça a pris beaucoup plus de temps. Déjà, on a vachement plus travaillé les morceaux à l'avance. Et donc après, on s'est retrouvé une partie qu'on a fait à la maison, une partie en studio. Et ça a été en plusieurs fois. Donc ouais, par rapport à mes expériences précédentes, où je te parlais de Silver Chain là, que j'avais enregistré par exemple dans mon ancien groupe, là, dans ce cas-là, j'avais été en studio et j'avais passé une semaine sur place. On a tout fait, c'était torché, et puis je suis rentré à la maison. Et là, on l'a fait en plusieurs fois, et avec une partie vraiment maison et une partie studio. Ce qui a fait que c'était vachement riche, parce que du coup, ça a permis de tester pas mal de choses différentes, mais au final, ça a été plusieurs expériences différentes, ouais, c'est ça.
D'accord. Sur le par rapport au nombre de morceaux qui apparaissent sur l'album, est-ce que vous en avez bossé plus, finalisé plus, et vous avez fait après un tri, ou n'apparaît sur l'album que ce que vous avez finalisé?
Alors non, on n'a pas fait plus. La seule chose qu'il y avait de plus, c'était Unstoppable, un single qu'on a sorti pendant le confinement, qui à la base était prévu d'être sur notre nouvel album. Et qui au final, comme il a été sorti vachement avant, qu'entre temps on a changé de personne qui a produit l'album et tout, on a fait le choix de pas le mettre dans l'album parce que du coup il dénotait vachement par rapport aux autres morceaux de l'album, en termes de temps, d'énergie, enfin on l'a pas fait un peu que les autres. Celui-là au final n'est pas apparu sur l'album, mais on n'a pas eu plus de morceaux, on n'a pas fait le choix dans les morceaux.
Et vous avez pas souhaité le réenregistrer à la sauce une nouvelle version?
En fait, au final, Unstoppable, il coulait vachement bien à la période qu'on a vécue, tu vois, il y a beau y avoir de la merde, on nous arrêtera pas, ça continue, et en fait, le fait de l'avoir fait en mode single, de l'avoir calé à ce moment-là, c'était très bien, ça allait comme ça. Après, en plus, on a déjà remanié pas mal de fois dans le The Long Time, qui était du coup sur la même période, du coup, non, on a fait ce choix de le laisser tel quel, après, on verra peut-être, tu sais, dans quelques années, on peut sortir des albums de luxe ou des trucs comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu qu'il soit sur la gueule.
D'accord, merci. Autre élément important, en plus du fond, qui reste quand même la musique, la forme. Comment vous avez bossé la pochette, donc, qui est signée Crematorium? Quelle était un peu votre idée de... Alors, c'est quelque chose d'assez simple, mais de très, très, comment dire, très coloré, accroche l'œil tout de suite. Quelle était un peu votre idée?
Ouais, en fait, l'idée, ça s'est fait un peu... Enfin, ça s'est pas fait un peu comme ça, mais je veux dire, ce qu'on a proposé au graphiste, ça a été assez simple, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose d'assez sombre pour représenter un petit peu notre album, tout en étant très, enfin, sombre dans la forme, mais par contre très coloré en termes de couleurs, du coup. Et avec ce côté un peu futuriste. Et en fait, en partant sur cette idée-là, ça s'est très vite terminé sur cette pochette-là, qui...
D'accord, ok. Autre élément important dans les visuels, c'est les clips. Donc vous en avez proposé déjà au moins deux.
C'est ça. Donc
vous avez fait Life Will Always Find Its Way. Il y a quelques semaines, quelques mois, mais après et plus récemment, King of the World.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu peux nous raconter en général de ces expériences et est-ce que c'est un on va dire c'est une galère nécessaire ou c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ce type de produit?
c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que particulièrement pour le premier, pour Life, c'était super cool parce qu'on s'était pas vu depuis un moment, c'était les périodes de confinement, puis qu'on habite tous loin, on s'était pas vu depuis longtemps et on s'est tous retrouvés en plein hiver dans un vieux hangar désaffecté à être congelé, tu vois, mais à faire les trucs qui nous prenaient aux tripes, à mettre la musique à fond et se donner à fond pour le clip. Et dès qu'on finissait les prises, on allait se caler à côté des barils qu'on avait mis, on avait fait un petit barbecue dedans pour se réchauffer. Donc voilà, ce côté difficile, mais qui en fait n'est rien à côté de tout le plaisir qu'on a eu de se retrouver et participer à ça. Il faut savoir aussi que l'équipe qui nous suit pour les clips, c'est Duke TV, et que c'est une équipe vraiment super cool. Qui nous aide énormément, qui nous coach sur la façon de faire et qui travaille super bien. Pour ce qui est de King of the World, c'était, en termes de conditions, c'était plus facile parce que c'était pas un vieux hangar désaffecté, c'était une grande salle de concert à Troyes. Et du coup, bah voilà, bien évidemment, on était au chaud, etc. Et là, pareil, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. On avait quand même fait quelques dates en automne. Et du coup, à chaque fois, c'est un plaisir de se rencontrer. En plus, on a eu la... En termes d'expérience, on a pour la première fois bossé avec un acteur, qui a vraiment assuré et qui a, en termes de rendu final sur le clip, c'est quelque chose qui nous a vachement plu. Ouais.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux à ce niveau-là?
En termes de clip?
Ouais.
En termes de clip, on est en train de réfléchir pour en faire un autre, mais pour l'instant, pas plus. Il y en aura un autre, mais voilà, on n'a pas de détails encore en avance.
D'accord. En termes de perspective, si on se projette un peu dans l'avenir, bon, bientôt il va y avoir des concerts, vous avez déjà annoncé plusieurs dates. Et ouais. Puis, ben, tous les métalleux ont en particulier noté deux dates qui doivent, entre guillemets, vous exciter, mais qui vont être peut-être un sacré challenge. C'est à la fois Hellfest et Wacken.
C'est ça. Hellfest en plus, main stage, contrairement au Wacken, mais dans le cas, oui, c'est sûr que à la fois super cool, à la fois un petit peu de pression. Ouais. Mais bon, je t'ai pas laissé finir.
Non, tant pis. Est-ce que tu as déjà fait ces festivals, toi, en tant que festivalier, donc côté public, et sans vous projeter trop pour l'instant et vous me faire monter le stress pour rien, comment vous imaginez, enfin, ou comment toi, ben, je sais pas si je peux pas parler collectif, tu imagines un peu ces concerts à venir?
Alors, moi, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir y participer même en tant que festivalier. Donc je suis super content pour la première fois où j'y monte de faire ça en tant que groupe, enfin en tant que musicien. En termes de pression, je dirais pas que j'ai de pression. Je sais que je l'aurai quand il va falloir monter sur scène, il n'y a pas de souci. Et puis heureusement je l'aurai parce que je fais ça aussi pour l'adrénaline que ça me procure et tout ça. Mais je suis surtout super content de pouvoir faire ça et j'ai envie de ressentir ce que je vais ressentir sur scène à ce moment-là. On va énormément travailler pour, j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien se passer. Bon, ouais, on est jamais à l'abri d'un truc technique. Mais je veux dire, c'est que ça se passera bien et je suis très curieux de savoir comment je vais le vivre et ça va être un super moment.
D'accord. Non, bah, ouais, je pense qu'effectivement, si une fois dans le truc et en vivant l'expérience à fond, ça doit être un sacré truc, quoi. Ça doit être un sacré,
ouais, c'est sûr.
Un sacré shot. Moi, je l'ai vécu en tant que, enfin, public, et en sentant déjà beaucoup d'énergie. Alors, les mecs sur scène, ça doit être quelque chose,
ouais. Ouais. Je pense que ça va être cool.
De mémoire, vous avez une autre, je crois qu'il y a un feature aussi à Barcelone, non? Ou...
C'est ça, on a le Rockfest à Barcelone qui va être bien costaud aussi. Enfin, bien costaud au sens bien gros festival aussi.
Donc ça, c'est vraiment... avant ça, il y a quelques dates, au moins?
Avant ça, on a deux dates dans le sud de la France, mais c'est des plus petites dates, bien sûr. Hein, de toute façon, pour le fest, forcément, elles sont pas toutes comme ça. Et on en a une à trois aussi. Après ça, on en aura une qui est pas encore annoncée, mais du coup, on a une petite surprise ouais, pour la période en août, okay. Qui va être aussi un beau truc. Et on est en train de travailler aussi avec Mathieu Drouot sur une tournée en automne-hiver en France.
Parce que finalement, vu le, je dirais, l'aura du groupe, le truc qui pourrait vous tomber, c'est une tournée de première partie d'un groupe un peu plus, enfin un peu comme vous avez fait pour Tremonti, ou enfin un groupe un peu plus installé pour pouvoir vous faire connaître plus largement sur une tournée de quelques dates, quoi.
C'est ça. Là, le plan, ça serait de faire un peu, c'est-à-dire de tourner un petit peu dans des salles peut-être plus petites, c'est en notre nom, histoire de voir réellement. Comment on peut remplir des salles, tu vois, à quel point, et vraiment jauger le truc, et mixer ça avec des tournées de première partie, du coup, pour faire des salles beaucoup plus grosses et toucher beaucoup plus de monde, et faire grossir un petit peu la fanbase, même, tu vois.
D'accord. Bah écoute, juste une dernière question pour terminer cette interview, ouais. Et encore merci d'avoir pris le temps de répondre.
Avec plaisir.
C'est en début d'année, mais toute fin mars, tout début avril. Et quel serait ton album de l'année 2022 jusqu'à présent?
Les deux. Qu'est-ce que j'ai écouté qui est sorti en 2022? J'avais envie de répondre Dream Theater, mais je sais pas, ça doit être 2021 Dream Theater, le dernier qui est sorti.
On va dire dans les derniers 6 mois, c'est pas très grave.
Ouais, ben, je dirais que Dream Theater, en fait, c'est pas forcément la plus grosse sorte que j'ai pris depuis un moment, mais c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié réellement du Dream Theater, et ça m'a un peu remis dans le truc. Et Dream Theater, ça reste un groupe que j'ai énormément écouté, donc ça m'a fait plaisir d'avoir un album sur lequel j'ai pu s'accrocher ces derniers temps.
D'accord.
De chez eux.
Ok, bah écoute, ça va, je pense d'accord avec toi, j'ai quand même une préférence pour le précédent.
Ouais, d'accord.
Mais je suis d'accord avec toi. Après s'être perdu dans l'espèce d'album double là qui m'ennuie à mort,
ouais.
Que l'album concept il me fatiguait, je trouve que les deux derniers sont déjà un peu plus classiques et ça me va mieux.
Ouais, grave.
Bah écoute, encore merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Eh ben avec grand plaisir, merci à toi.
Tous nos vœux pour la suite, et puis on espère vous voir donc sur scène, au moins au Hellfest, et puis en Wacken, on va voir si on peut y aller, mais au moins sur pour le Hellfest.
Yes, ben ça marche.
À bientôt.
Au plaisir, et à bientôt. Merci.
Ciao.